Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Débattre la campagne. Alors, je vous rappelle que Débattre la campagne, c'est une émission qui a pour objet de discuter de politique, de démocratie, de vie sociale. Et donc on diffuse cette émission chaque mardi à 18h hein, sur notre web radio microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, Radio Plus, la radio du bassin minier et de l'Artois. Alors jusqu'à présent, nous avons rencontré différentes personnes impliquées dans les mouvements sociaux, dans la campagne des présidentielles qui vient de s'écouler. On a rencontré la France Insoumise, on a rencontré le collectif pour le boycott actif des élections, on a rencontré Lutte Ouvrière, Les Verts et la Belle Alliance Populaire, le Parti Socialiste. On avait introduit cette série d'émissions avec une rencontre avec Paul Masson. Et aujourd'hui, on retrouve avec plaisir Paul. Donc Paul est un militant d'éducation populaire et on a souhaité, aujourd'hui on est le mardi 25 avril, on a souhaité 2 jours après le premier tour de cette présidentielle, on a souhaité peut-être faire un petit point d'étape en quelque sorte avec Paul, un petit point d'analyse, un petit point de projection aussi, un petit point de réflexion hein, avec effectivement cet angle éducation populaire sur ce premier tour. Alors Paul, bonjour. Peut-être ce que je te propose, c'est pour introduire l'émission de nous faire peut-être un petit point de synthèse brut de fonderie concernant les résultats.
Oui, ben on peut commencer par ça. En gros, le taux de participation, c'est 76,21% de participation. Et là-dessus, on a 2,58 de blanc ou nul. C'est-à-dire qu'il y a 73,65% du corps électoral qui s'est déplacé et qui a voté. Et là-dessus, les résultats qu'on a donc portent sur, non pas l'ensemble du corps électoral, mais sur 73,65% du corps électoral. Là-dessus, Macron fait 23,86%. Marine Le Pen, 21,43. Fillon, 19,94. Mélenchon, 19,62. Hamon, 6,35. Dupont-Aignan, 4,73. Et les autres font tous moins de 1,5%. Voilà. On peut dire qu'au deuxième tour, on va avoir Macron, Le Pen, qui correspondent à 45% des suffrages exprimés et qui correspond à 33,35% du corps électoral, c'est-à-dire un tiers du corps électoral seront représentés pour désigner le président de la République. C'est intéressant quand même de remarquer que le système des élections fait que 2/3 de ceux qui se sont qui sont manifestés pour les élections, qui ont voté, sont exclus du deuxième tour.
Et donc, à plus forte raison, un plus grand pourcentage du corps électoral.
Voilà. La majorité du corps électoral ne sera pas représentée au deuxième tour, puisqu'il n'y en aura que le tiers qui sera représenté. 27,65% du corps électoral, qui représente la gauche, ne sera pas présent au deuxième tour. La gauche n'existera plus au deuxième tour. Voilà pour ce qui est des chiffres bruts.
Très bien. Alors peut-être juste sur ces chiffres, on peut. Tu as évoqué le nombre de bulletins blancs ou nuls, hein, entre 2 et 2,5%. On peut aussi noter. Alors, j'ai pas de point de comparaison avec les élections précédentes, mais quand même, ça veut dire que plus de 2% des gens qui se déplacent n'ont pas choisi parmi 11 candidats.
Oui,
c'est quand même assez notable. Oui, oui. Voilà. Alors très bien, mais écoute Paul, au-delà des chiffres hein, bruts, selon toi, quels sont les premiers enseignements que tu tires de ce premier tour?
Alors je les mettrais autour d'une formule, le vieux trop vieux, le neuf trop neuf. C'est la définition de la crise par Gramsci, le vieux ne marche plus, et le neuf n'est pas encore suffisamment élaboré pour que ça puisse marcher. Les partis au pouvoir depuis 30 ans s'effondrent. Les Républicains et le Parti Socialiste s'effondrent, et avec eux, l'organisation de la vie politique de la Ve République, qui faisait qu'on passait de l'un à l'autre, et ça depuis la Ve République. La droite et la gauche traditionnelles sont en décomposition, mais ils ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'au niveau des élus locaux, au niveau de tenir les infrastructures du pays, c'est encore toujours ces forces-là qui sont nettement majoritaires. Ce qui est mort, c'est le bipartisme. Ça, c'est mort.
Ce bipartisme PS droite.
Voilà, oui, où finalement ça se jouait entre la droite et la gauche, que Bayrou avait voulu essayer de faire bouger, mais ça a jamais, il n'avait jamais réussi, et ça, par contre, c'est mort. Ce qui n'est pas mort, c'est la classe politique qui nous dirige depuis 30 ans. On va voir que finalement, c'est toujours cette même classe politique qui a les commandes, mais restructurée différemment. Autre chose qui n'est pas mort, c'est le présidentialisme. C'est-à-dire une politique qui est structurée autour d'une personne. Ça, c'est pas mort. Ce que ça a eu comme effet, c'est la défaite spectaculaire de Fillon fait que la droite traditionnelle, elle est amenée à se réinventer parce que sous quelle forme, on n'en sait rien, mais elle n'existe plus.
On peut dire que la droite est en crise.
Voilà, elle est en crise, mais une crise majeure.
Crise profonde.
Une crise majeure. Pour ce qui est du Parti Socialiste, alors c'est encore plus intéressant de regarder, parce que le Parti Socialiste était pris entre deux candidats. Le Parti Socialiste avait son candidat officiel, Hamon.
Issu des primaires.
Issu des primaires, qui ne portait pas le projet du Parti Socialiste.
On peut rappeler que Hamon était un frondeur, par exemple.
Voilà, Hamon était un frondeur, c'est pas lui. Et le programme de Hamon n'a rien à voir avec le programme des socialistes. Et par contre, le programme du Parti Socialiste majoritaire, la suite de Hollande, était porté par Macron, qui lui n'est pas au Parti Socialiste. Ce qui fait que le Parti Socialiste, soit il a réinventé, autour de quoi on ne peut pas savoir, soit il a amené à disparaître, et que ce soit En Marche, le parti de Macron, plus droitisé que ne l'était Hollande, qui prenne la relève de ce courant majoritaire. Voilà pour ce qui est de la décomposition du vieux trop vieux. Par contre, la classe politique qui nous dirige depuis 30 ans a son candidat. Son candidat, c'est Macron. Elle peut continuer de diriger, de se réorganiser, de se reproduire. On aura les hommes de Macron ne seront pas forcément les mêmes hommes qu'avait Sarko ou qu'avait Hollande, mais tout est dans l'ordre pour se reproduire.
Autrement dit, ce que représente Macron, c'est finalement le système dirigé aujourd'hui par une classe économique, la bourgeoisie. Macron incarne parfaitement tout ça.
Tout à fait, tout à fait. Et Macron a fait 23,86% des votes. Macron, qui probablement sera élu, sauf un coup d'éclat dimanche, il y aura 18% du corps électoral qui lui donnera le statut de président avec toute la force
La légitimité électorale.
Avec la légitimité du président de la République et le pouvoir du président de la République.
Effectivement, ça, c'est tout à fait intéressant à pointer. Hein.
Voilà. Voilà notre système politique. Et s'il y avait un coup de théâtre et que ce soit Marine Le Pen, eh bien, on serait dans la même situation, en pire, puisqu'elle a fait encore moins que Macron. Ça, c'est le vieux, trop neuf, dans la forme, visiblement, les institutions de la Ve République sont complètement dépassées.
Alors, par rapport au vieux qui n'est pas mort, hein, pour reprendre ton expression, on peut effectivement noter que d'ores et déjà, les états-majors préparent les élections législatives avec les mêmes perspectives que par le passé. Autrement dit, on a le retour des appareils, on a,
oui.
ils existent toujours. Effectivement, ils ont été discrédités, ils ont été lâchés par le corps électoral, mais ils sont toujours à l'œuvre.
Voilà. Ça, c'est le premier élément qui m'a frappé dans ces élections. Alors, une deuxième approche, c'est, on peut dire qu'on a eu des votes anti-système, hein, puisque en s'opposant aux Républicains, en s'opposant au PS, on était dans du vote anti-système. Et là, c'est une phrase que je mettrais en exergue, c'est extrait du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change.
Donc le Guépard, c'est le film Guépard, de Visconti. Hein.
Oui, et c'est surtout un livre de Tomasi, Giuseppe Tomasi. C'est la phrase « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Macron a réussi à se présenter comme le candidat anti-système alors qu'il vient des banques, il était ministre de l'économie sortant, et il passe entre le monde des affaires et le monde politique, c'est-à-dire que c'est le pur produit du système économique dominant qui apparaît comme anti-système. Son livre, il l'intitule « Révolution ».
Oui.
C'est quand même remarquable. Et son territoire politique, ni droite ni gauche, on est ailleurs. Et ça marche. Le candidat qui est le mieux à même de conduire les politiques pensées à l'échelle de l'Europe, par la Commission européenne, autour des intérêts des multinationales et des banques, peut continuer en France pendant 5 ans, sans problème, à moins que quelque chose vienne le perturber, parce que la vie politique, ce n'est pas seulement les élections présidentielles.
Alors effectivement, Macron, c'est un technocrate libéral, hein, ça je crois que c'est clair, c'est qui a été le fer de lance de la déréglementation hein, sous son ministère, sous François Hollande. Hein, il a inspiré les lois Macron. Les lois Macron, c'est le travail le dimanche, c'est les jeunes qui peuvent travailler plus de 35 heures, hein, c'est dans son programme. Donc je pense que c'est ce qui te fait dire en quelque sorte, Macron, c'est un pur produit du système.
Voilà.
Qui ne pourra que le prolonger, quoi.
Très bien. Et il est bien placé pour faire ça. D'ailleurs, le résultat des élections, on voit le CAC 40 qui monte. Ouais. C'est-à-dire, le CAC 40, c'est la mesure des intérêts de ceux qui ont de l'argent placé, qui disent « notre argent va nous rapporter ouais. ». Autre candidat qui mérite une analyse sérieuse, c'est la candidature Le Pen, qui, elle aussi, se présente comme anti-système. Comment qu'elle appelait ça ? PS-UMPS. L'anti-UMPS. Alors, la différence de Le Pen avec Macron, c'est qu'elle, elle n'a jamais participé à un exécutif national. Le Front National ne s'est jamais trouvé, elle n'a jamais réussi à être ministre. Mais le Front National est complètement institutionnalisé dans la vie politique française. Le Front National gère des villes, il est dans des conseils régionaux, il est installé dans la vie politique. Et Le Pen vient de, on peut dire, la plus vieille famille politique qui dirige, qui participe, qui structure la vie politique en France. Le vieux Le Pen, je l'ai entendu ce matin à la radio, qui dit la réussite de sa fille, c'est 45 ans de vie politique. lui, sa fille, sa petite-fille. Les Le Pen se sont présentés 7 fois au présidentiel. La première fois que le vieux Le Pen se présente au présidentiel, c'est en 1974. Il y avait beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas nés. Et déjà, les Le Pen étaient dans la vie politique. Le milieu du Front National et la famille Le Pen connaît très bien les lois, les combines, les milieux politiques. Et Marine Le Pen, comme Fillon, comme Sarko, comme Balkany, comme Cahuzac, eh ben, eux aussi, ils sont compromis dans des affaires. C'est-à-dire qu'elle fait partie complètement du milieu.
Donc on est loin de l'antisystème.
On est loin de l'antisystème. Même si la différence, c'est qu'elle n'a jamais réussi à prendre des commandes. Et sous un habit neuf, un côté, c'est une femme, le FN a essayé de faire. De plus mettre en avant les baroudeurs qui faisaient des coups de force, un contrôle du langage chez la fille qui est quand même bien plus contrôlé que chez Le Pen. Elle n'est jamais allée jusqu'à le four crématoire, c'est un détail. Mais enfin, elle a quand même dit que le responsabilisé du Valdiv, ce n'était pas la France. Il y a quand même des loupés un peu. Mais globalement, le FN a refait son langage et apparaît comme un anti-système. Et ça marche. Mais je crois que le Pen, faut quand même regarder avec attention. Parce que au présidentiel, elle fait 21,53. En 2012, elle faisait que 17,9. Et en 2012, au présidentiel, 17,9. Aux européennes, le Front National fait 25%. Au départemental, en 2015, il fait 26%. C'est-à-dire qu'on a une montée en puissance de cette force-là. Jusque-là, cette force n'a pas réussi à prendre le pouvoir, mais si rien ne change, si on continue à conduire les mêmes politiques, ben, il est probable que dans le climat de décomposition, il y aura un moment où l'extrême droite réussira à prendre le pouvoir.
On peut peut-être, faire une parenthèse, puisque tu parles de l'évolution des scores du Front National, faire un petit focus sur le bassin minier. Le bassin minier, résultat du premier tour, les 30 villes du bassin minier placent Le Pen en tête, parfois très largement, parfois majoritairement. Il y a 2 communes du bassin minier où Le Pen fait plus que 50%. Et dans toutes les autres communes, petites comme grosses, Lens-les-Vins, c'est Le Pen qui est en tête. Parfois très très largement. Et aux dernières élections présidentielles, il y avait 12 communes qui avaient mis Le Pen en tête. Là, on en est à 30. Alors c'est vrai que dans le bassin minier, il y a, nos auditrices, nos auditeurs le savent, il y a beaucoup de conditions qui favorisent le Front National. Il y a une implantation à Hénin-Beaumont aussi. Mais il y a effectivement ce que tu décris qui est à l'œuvre ici, localement, d'une manière très perceptible. On peut aussi renvoyer au film Chez nous, qui a été tourné en grande partie dans la région, et qui dit un certain nombre de choses que tu évoquais toi-même. Quand tu évoquais le fait que le Front National cherche à s'affranchir de ces hordes un petit peu néo-nazis, le film le montre aussi, il y a tout ça c'est aussi repris là-dedans. Je te laisse poursuivre sur Le Pen ou tu as un autre.
Non, après, je voulais parler de la décomposition, recomposition à gauche.
Ok, très bien.
Alors, au niveau de la recomposition à gauche, il y a le vote Mélenchon qui fait 19,62, c'est-à-dire qui fait en gros autant que Fillon, et qui est à 2 points des 2 premiers candidats. C'est-à-dire que là, on a un phénomène de recomposition à gauche qui s'est fait. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est justement sur quoi s'est fait la recomposition. En gros, Mélenchon a changé complètement de stratégie par rapport à 2012. 2012, il était toujours dans la logique des partis. On essayait de voir quelles étaient les forces organisées, les partis, comment qu'on pouvait faire des alliances pour réussir à gagner les élections. Et ici, Mélenchon part à contre-pied des élections. C'est-à-dire que là, on a une stratégie anti-système qui consiste à dire on ne marche plus dans le jeu des partis, on va s'appuyer sur la base. Et en gros, sa campagne s'appuie sur le peuple des insoumis. Il n'y a pas cherché d'alliance avec les partis, je me présente et j'essaye de mobiliser les insoumis. Le programme de Mélenchon a été fait de telle manière que tous ceux qui souhaitaient pouvaient apporter des éléments de contribution. Et il y a eu 3500 personnes qui ont fait une contribution au programme. On a dans un autre type de démarche. Cet autre type de démarche, pratiquement on n'en a pas parlé pendant les élections, parce qu'ils n'ont pas... Il y a eu Bleu, Blanc, Zèbre, qui avait essayé aussi ce même type
Alexandre
de démarche.
Jardin, hein.
Alexandre de Jardin, qui a essayé de dire comment qu'on fait de la politique autrement. C'est faire en sorte à partir de ce que les gens veulent. Il y a eu aussi l'essai de présenter une candidate. C'était une infirmière, donc je ne me souviens plus le nom, que ça va être des gens qui se sont dit, c'est elle qu'on voudrait présenter. Ça ne s'est pas fait, parce qu'il y avait le coup des 500 signatures, parce que ce n'était pas assez élaboré, mais on voit apparaître, et là on peut parler de recomposition, d'une manière de faire de la politique autrement que faire jouer les jeux d'appareil. Donc il y a eu ça, qui a... On peut dire qu'il a réussi, puisque cette stratégie complètement nouvelle permet à ce qu'il y ait, dans les quatre candidats, elle soit présente, mais, et qu'elle soit à deux points près des deux premiers, mais elle n'a pas réussi, parce que le vieux, trop vieux, continue d'exister. Le PS... avec Hamon, était sensiblement sur les mêmes bases. Et il représente 6,35%.
Donc, si on additionne, ça fait beaucoup.
C'est ce que tu dis. Si on additionne, ça fait beaucoup. Mais en même temps, de dire, est-ce que Hamon était en trop, c'était une chronique que j'ai faite, où j'interrogeais, est-ce que Hamon est en trop, je ne sais pas si Hamon était en trop. Parce qu'un certain nombre de personnes qui ont voté Hamon n'aurait pas forcément voté Mélenchon. Hein? Et par contre, ce qu'on constate, c'est qu'à la fin, tout ce qui est les politiques écologiques et tout ce qui est les politiques sociales qui étaient portées par Mélenchon et Hamon, elles passent, elles disparaissent.
C'est ça.
On ne les retrouvera plus dans le prochain président de la République.
Alors effectivement, peut-être sur ce que tu viens de dire, bon déjà... Tu évoques le score de Mélenchon, de la France insoumise. C'est vrai que au soir du premier tour, dimanche soir, on avait l'impression que Mélenchon était désappointé, était assommé par le fait de pas avoir réussi. Bon, ceci étant, il a doublé son score par rapport aux dernières élections.
Et oui.
C'est quand même significatif. Alors j'avais peut-être une question à te poser sur ce que tu as appelé le peuple des insoumis. Parce que là, on a sans doute peut-être aussi une évolution dans ce qu'était le rapport droite-gauche.
Oui.
Auparavant, le rapport droite-gauche se structurait autour des classes. La classe ouvrière, les travailleurs et puis les possédants de l'autre côté. Là, le peuple de gauche qui s'est incarné dans la France insoumise, il n'est plus structuré autour de ce conflit de classe. Où est-ce qu'il l'est encore? Quelle est ta vision de... Autrement dit, ce que met en avant la France insoumise, et ici on a reçu Jean-Luc Lambert qui était dans le comité Bruet de la France insoumise, la citoyenneté, c'est les citoyens, c'est le peuple d'une manière générale.
Oui.
Et c'est une évolution par rapport à classe contre classe. Autrement dit, on a l'impression quand même d'un peuple insoumis qui est qui traverse les classes, qui est... Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un problème? Comment est-ce que tu vois ça?
Ben, je dis pas c'est un problème, c'est un fait.
C'est un fait.
C'est un fait. Hein, ouais. Est-ce que c'est un problème? Je pense que la coupure classe contre classe, elle est à la fois elle est dépassée, autrement, parce que les classes moyennes sont tellement majoritaires que on n'arrive plus à voir les affaires aussi simples. Par contre, la classe contre classe, les insoumis sont tous dans les classes qui sont victimes du capitalisme financier. C'est-à-dire, si on regarde tous les insoumis, même des insoumis des classes moyennes aisées, sont victimes du système capitaliste. Hier soir, j'animais un ciné-débat autour de Corporate, un film qui vient de sortir, qui se passe dans une grande entreprise et où on revient dans une entreprise où on va casser les gens. Les salariés de cette entreprise, c'est pas des pauvres. C'est des salariés d'une grande multinationale qui travaillent dans les bureaux et qui ont des bons salaires. Et la dirigeante qui casse les personnes, on va voir dans le film qu'elle-même, elle est victime. Et à la fin, elle est aussi victime du système. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y aurait plus de lutte de classe me paraît inexact. On a toujours mais la classe dominante devient tellement minoritaire que les insoumis, on va en avoir dans toutes les classes. Où ça me pose plus question, c'est que les plus exploités n'adhèrent pas aux insoumis. Les plus exploités, ils se retrouvent d'abord dans le vote Front National.
Les précaires, le prolétariat.
Les gens qui ont rien. Eh ben, ils disent pas, c'est dans l'organisation des insoumis qu'on va aller. Et là, il y a un problème dans cette recomposition. Parce que, à la limite, la classe dominante peut jouer la catégorie du peuple la plus exploitée contre les autres pour continuer de garder son pouvoir. À la limite, dans les années 30, la bourgeoisie, elle n'a rien perdu avec la montée du fascisme, avec la montée... Ça a même été, pour elle, le moyen d'éviter le Front populaire en Espagne, le Front populaire en France. Donc, là, il y a un problème.
Alors, peut-être, je ne sais pas si tu as prévu de l'évoquer, ce problème, il est peut-être aussi lié au fait que le Parti communiste français n'est plus actif auprès de ce prolétariat, auprès de...
Oui.
Auprès des précaires.
Oui. Mais le Parti communiste...
Qu'on n'a pas vu. Vu du tout.
Non. Mais moi, je pense qu'on est dans une recomposition du paysage politique dont les partis ne sont plus l'élément majeur. Il y a nécessité de repenser les affaires. Donc l'idée, c'est pas de dire comment qu'on fait pour redonner un peu de vie à un parti mourant. C'est comment on réorganise la citoyenneté sur des bases qui ne soient pas des jeux de partis les uns à côté des autres. Ce système-là a fait preuve de son échec. Donc, il faut réinventer une autre manière de faire de la politique. C'est ce que j'essayais de voir dans l'aspect de Mélenchon.
Très bien. Alors, peut-être, Paul, si tu te permets, on va continuer cet échange. Mais auparavant, on va faire une petite pause musicale.
D'accord.
On a beaucoup parlé. Je crois que nos auditrices et nos auditeurs sont intéressés. Enfin, je l'espère. Donc on est toujours sur l'émission Débattre la campagne de Micro Rebelle, sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier de l'Artois. Et ce petit extrait musical, c'est toi qui l'as choisi, Paul. C'est un extrait d'une chanson que je vais te laisser te présenter. L'auteur, c'est Gaston Coutet. C'est un poète libertaire de la fin du 19e siècle, début du 20e. Il est né en... 1880, il est mort en 1911, hein, donc 31 ans. Donc un chansonnier, un poète. Je te laisse le présenter ou présenter la chanson que tu as choisi de nous proposer.
Oui. Alors, la chanson que j'ai choisie, ça s'appelle « L'automne ». Et l'automne, c'est un des textes d'un texte un petit peu plus long que Couté a appelé « Les saisons ». Et j'ai choisi ce texte parce que Couté, c'est un poète paysan et c'est un poète libertaire. Et ce texte, « Les saisons », fait un parallèle entre le phénomène des différentes saisons qui s'alimentent mutuellement l'un l'autre et où on passe de l'une à l'autre, et la vie sociale. Dans le printemps, vous n'allez pas écouter, il dit, il y a les hirondelles qui arrivent, et il termine, « Ô gouvernant bourgeois à la poigne cruelle, tuez, si ça vous plaît, toutes les hirondelles, vous n'empêcherez pas le printemps de venir. » Dans l'été, il va insister sur le fait que le nombre de grains qu'on sème, ils sont très peu nombreux par rapport à la moisson qui va arriver à la fin de l'été. Et il invite à ensemencer le champ des esclaves. Mmh. Il fait un parallèle avec ça. En disant, il y aura, même ce que vous jetez, ça apparaît dérisoire. Mais en même temps, c'est ce qui paraît dérisoire qui va faire naître
la récolte.
La récolte. Ça rejoint le colibri, qui est plus l'image de là. Pour ce qui est de l'automne, eh ben, je vous laisse écouter la chanson.
Très bien. Donc, l'automne de Gaston Couté, on peut préciser que c'est interprété par Claude Antonini.
Voilà.
Comme un monde qui meurt, écrasé sous son or, la forêt automnale en son faste agonise. Et ses feuilles comme les pièces d'un trésor s'amoncèle sous le râteau fou de la bise. Des sous-bois ont s'enflotté, la même odeur de lente mort et de luxure qui vous accable au cœur des trop riches cités. Tout l'or de la forêt s'exhale en pourriture. Nous savons que de l'amas de ce fumier doit fleurir en l'élan de la sève prochaine la gaieté des coucous, la grâce des aubiers, la douceur de la mousse et la beauté des chênes. Société ressemble à la forêt. Nous sommes en novembre et l'automne est en elle. Au fumier d'aujourd'hui, plus ton lit est épais, plus l'avril sera vert dans la forêt nouvelle. Thank you.
bien, on est de nouveau sur Débattre la campagne, sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. Et nous sommes donc aujourd'hui, deux jours après le premier tour des élections présidentielles. On est avec Paul Masson, un militant d'éducation populaire, pour tirer quelques analyses de ce premier tour. Et donc avec Paul, on était en train d'évoquer la recomposition de la gauche. On avait évoqué la France insoumise. Tu as encore des choses à préciser sur la France insoumise, Paul, ou...
Oui, par rapport à ça, je... souvent on dit ben, l'échec, c'est parce que conflit des égaux entre Mélenchon et Hamon, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je partage pas cette analyse. Peut-être que c'est un paramètre, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que il y a un poids de la tradition socialiste. Je prendrai un exemple. Mon père, 87 ans. Je suis socialiste, donc je vote socialiste. Et à l'interrogation, mais tu votes pour ce qu'il dit, ben, je ne me pose pas la question du programme du Parti Socialiste, puisque je suis socialiste. Et ça existe. Il y a quelque chose, c'est pas génétique, mais il y a toute une culture autour d'une... Et à la limite, trahir Hollande, je trahirais Jaurès. Ça n'a plus rien à voir, mais... Et tout ça, ça existe. On avait besoin d'une candidature Mélenchon pour ça.
Pour rompre avec ça, pour dépasser ça, quoi.
Eh bien, non, justement. À la limite, la candidature à Hamon avait tendance à faire perdre la gauche. Mais il y avait une partie de la gauche qui ne pouvait pas aller dans ce nouveau projet parce qu'il y avait tout l'ancien et cet héritage. Et je crois que ça a pesé. Et c'est à respecter. C'est pas...
C'est un fait, oui.
Voilà, c'est un fait. Et on peut pas l'analyser par les conflits d'égo. Le deuxième élément, c'est que le projet de la France insoumise remet en cause beaucoup de choses. Remet en cause un équilibre social, et il va y avoir dans les classes moyennes installées de gauche. De gauche au sens de dire 6 millions de pauvres, c'est pas acceptable. C'est bon, on s'en fout. Non, qui remettent en cause, qui disent c'est pas acceptable humainement, c'est pas acceptable, mais qui sont pas prêtes à une alliance populaire qui risquerait de leur faire perdre un certain nombre d'avantages immédiats ou une certaine sécurité de confort.
Autrement dit, on n'est pas pour qu'il y ait 6 millions de pauvres, mais on n'est pas non plus complètement pour l'égalité.
Et on n'est pas prêt, surtout, à remettre en cause un ordre social qui a créé ces 6 millions de pauvres pour quelque chose dont on ne sait pas où ça irait. Et je pense que dans le fait que de l'échec du projet que Mélenchon n'ait pas pu aller au-delà de l'actuel, c'est lié aux forces sociales du pays où, à la fois, il y a une culture et où une culture ancienne qu'on veut pas lâcher et qui c'est pas et que
c'est le vieux hein.
C'est le vieux et à la fois un côté comment qu'on pourrait dire un tien vaut se dit-on mieux que deux tu l'auras voilà. avec Mélenchon on pourrait aller plus loin
non.
Mais enfin on sait pas trop où on va, je veux pas prendre le risque d'un conflit ouvert, donc je vote Hamon. Ou carrément, je vote Macron, pas par adhésion au projet de Macron, mais parce que c'est le moindre mal.
Très bien. Donc, le poids de la tradition socialiste, et puis peut-être, ce que tu viens d'évoquer, c'est finalement, notre société est encore à droite, quoi.
Voilà. Ouais. Et les classes moyennes, qui sont quand même majoritaires, ben, s'accommodent bien de ce... De ce capitalisme, même s'ils disent que... Et que les classes moyennes ne sont peut-être pas encore assez touchées par le courant néolibéral, quoi. C'est plus les plus pauvres qui ont trinqué que les classes moyennes aisées.
D'ailleurs, le système, les dominants, enfin tous ceux, tu as évoqué tous ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans, hein, droite ou gauche en alternance, ben, ils s'efforcent aussi de mettre les gens les uns contre les autres.
Hein. Eh ben oui.
Le travailleur va en vouloir au SDF, le SDF va en vouloir aux migrants, enfin, etc. Quoi. Donc il y a aussi ce clivage qui finalement préserve l'ordre, préserve l'ordre établi. Très bien. Alors peut-être Paul, on a fait un tour d'horizon rapide hein, de quelques éléments de la situation d'aujourd'hui. Hein. Le vieux est trop vieux, le neuf n'est pas encore trop neuf, il y a des contradictions qui sont à l'œuvre. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement ?
Alors, comment on en est arrivé là ? Au niveau de l'analyse globale, je vois deux éléments. Il y a d'une part quelque chose qui est lié à l'organisation du capitalisme ou à l'échelle européenne. Je pense essentiellement à deux traités, le traité de Maastricht et le traité constitutionnel
2005.
De 2005, Maastricht 92,
oui.
Et traité 2005 qui a été refusé chez nous, mais que les partis politiques globalement et les forces politiques ont fait passer sous la forme du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne en France, il a été ratifié par nos élus. Il a été refusé par le peuple, mais ratifié par nos élus.
Par les parlementaires.
Donc, on est passé dans un système où les élus se sont défaits de leur pouvoir. La politique, les politiques n'ont plus de pouvoir sur la création monétaire, sur la gestion monétaire. Ils l'ont confié aux banques. S'ils l'ont confié aux banques, ils ne l'ont plus.
Et aux technocrates européens.
Et aux technocrates européens qui le verront. Donc, les élus se sont défaits de leur pouvoir. Un des éléments que je pense, c'est de l'échec de Jospin. Ça a été cette phrase lorsque Clermont-Ferrand,
Michelin,
au même moment, on licencie du monde et on distribue des dividendes et qu'on dit au président, au premier ministre en place de dire et qu'est-ce que vous faites ? Ben, on n'a rien à faire.
On peut rien faire.
Ouais. On peut rien faire. Alors, si on peut rien faire et si on dépossédé de son pouvoir économique, de son pouvoir monétaire, eh ben qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce que le pouvoir économique, les multinationales et les banques décident de faire. Et on gère ça. Et on en arrive. Donc, un des éléments, c'est que les élus, se défaisant de leur pouvoir, eh ben, ils apparaissent comme pas sérieux, comme pas opérationnels. Ils ne sont plus en mesure de faire.
Donc, décrédibilisés.
Ils sont décrédibilisés. Et la classe politique devient plus un jeu de lutte entre des représentations du monde où les hommes politiques essayent de faire avancer leur vision du monde et leur vision de la société, mais devient une classe qui fait un métier de gestionnaire au service de ceux qui décident, c'est-à-dire les forces économiques et les forces bancaires.
C'est ce qu'on appelle c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus de conflit entre un système qu'il faudrait renverser et puis le peuple qui voudrait renverser le système. Il suffit de gérer maintenant le système tel qu'il est.
Voilà. Et donc, pour ça, les éléments sont interchangeables. Ils sortent des mêmes écoles. Et, donc, il y a eu ce phénomène-là qui a fait que le politique a été complètement discrédibilisé. À l'échelle nationale, les politiques nationales ne permettent plus de débat sur des représentations. Quand on pense quand même, les députés passent 70% de leur travail à mettre en forme des décisions politiques qui ont été pensées au niveau européen. C'est-à-dire que les choses dont il parle, qui concernent, ça représente 30%, mais 70%, c'est de la mise en place de ça. On en arrive à ce que l'exécutif, pour réussir à faire passer ça, soit amené, alors que c'est un exécutif de gauche, à utiliser le 49-3. C'est-à-dire qu'il a pour lui contre le peuple, les représentants du peuple, et on va utiliser ça. C'est ça qui fait que ça a été complètement discrédibilisé. Et alors, dans ce contexte-là, la Ve République, la base de la Ve République, c'est un homme qui présente un projet de société au peuple et qui se présentait vers le peuple.
C'est le programme. Je présente mon programme.
Voilà ce que je veux faire. Voilà ma vision de la société. Voilà ce que je veux faire. C'était ça, la force de la Ve République gaulliste. Mais maintenant, on a des gestionnaires interchangeables. Et qu'est-ce que fait ? Alors, on va avoir... le roi est nu, quoi. Il n'y a rien à montrer. Oui. Le roi est nu.
C'est donc de la communication. On essaie de colmater les brèches,
de regarder au niveau des sondages qu'est-ce que c'est qu'il va faire pour que je puisse gagner. Et le programme de Macron, c'est quand même intéressant pour ça. On le cherche. On le cherche. Et là-dessus, consensus d'une classe politico médiatique entre les élus sans pouvoir, des technocrates qui passent de la gestion du monde des affaires à la gestion des affaires de l'État à l'occasion de leurs petites affaires, et c'est ce milieu-là qui a été complètement rejeté.
Alors tu évoques le médiatico-politique, c'est aussi la classe des médias qui est...
Tout à fait. Tout à fait, les médias soutiennent ça, alimentent ça, les grands médias qui sont tenus par un petit nombre de personnes qui sont tous liées à la finance.
Oui, je pense que tu n'évoquais ni Micro-Rebelle, ni Radio Plus.
Voilà. Mais il existe, et puis même quantité d'autres, mais qui sont loin d'avoir la même audition que la première chaîne.
Voilà, donc ça c'est... Un des aspects, on en est arrivé là effectivement parce que les élus finalement sont des gestionnaires avant d'être des politiques.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres points que tu relèves sur comment on en est arrivé là ? C'est le point essentiel ?
C'était les points essentiels, quoi. Alors, après, maintenant où on en est ?
Okay.
Alors d'abord, on est entre les deux tours. Il est peu probable que cette fois, le Front National monte, il est peu probable, sauf coup de théâtre, que Le Pen
soit élu.
Prenne le pouvoir. Il est peu probable. Mais ce n'est pas exclu, il y a 15 jours, et dans un truc où les coups d'éclat, où les anecdotes peuvent faire
basculer,
La victoire probable... C'est celle de Macron, qu'on a présentée comme élément qui était le bon représentant des forces pro-système. Et c'est le bon technocrate pour ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, la bourse, le CAC 40, les milieux financiers, dès qu'ils ont su les résultats,
se sont envolés.
Ils ont bien compris que leurs intérêts seraient préservés. Après, il reste la recomposition d'une alternative autour de Mélenchon. Alors, c'est net qu'il a repris le problème politique différemment. Et c'est quelque chose... On peut penser que ça va continuer. La chose quand même à voir, on peut penser que ça va continuer, on peut l'espérer, et il est souhaitable de l'accompagner. Ce qu'il y a, c'est que l'initiative Mélenchon, il ne faut pas la poser seulement en termes électoraux. Parce que là, on va vers le fiasco. À la limite, on aura une nouvelle classe, une nouvelle caste, qui va essayer d'investir les politiques de Mélenchon si on le pose qu'en termes électoraux. C'est-à-dire que le phénomène, pour qu'il porte au niveau politique, il y a nécessité que, suite à cette initiative des insoumis, il y ait une reprise du pouvoir sur le politique. Mmh. Et la prise de pouvoir sur le politique, c'est une prise de pouvoir sur l'économie, sur la consommation, sur la production, sur l'échange. Parmi les éléments de Mélenchon que j'avais trouvé intéressant, c'est de dire, notre constitution dit on a droit au travail. Et bien plutôt que de payer les gens à rien faire, comme chômeurs, on va payer pour que des initiatives de coopératives qui portent un projet dont la société a besoin, les embauchent et les payent. On reprend un pouvoir sur l'économie. Ça va être la coopérative, ça va être des gens organisés ensemble qui reprennent leur pouvoir économique. C'est pas on fait le CICE.
Autrement dit, ce que tu dis, c'est que au-delà des urnes, au-delà du vote, ce qui va aussi compter, c'est des pratiques à construire.
Voilà, et des pratiques, y compris dans le domaine économique. Dans le domaine culturel, une des raisons de la situation dans laquelle on est, c'est aussi toute la démobilisation de l'éducation populaire qui est devenue gestionnaire de dispositifs. Et tout ce travail-là de culture, au sens comprendre pour pouvoir agir, comprendre le monde dans lequel on est, pour pouvoir exercer son pouvoir, c'est aussi quelque chose à développer. Phénomène relancé par Mélenchon, pour qu'il puisse déboucher, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dure l'année qui précède les élections. Il faut que ce soit un processus politique qui réinvestisse le politique dans ses différentes dimensions.
Très bien, ben Paul, je te remercie. Hein, cette émission touche à sa fin. Et donc, pour poursuivre ce que tu dis, on aura l'occasion de réinviter des militants engagés dans la France insoumise, engagés dans des mouvements sociaux, dans des mouvements syndicaux, dans des mouvements citoyens. On aura l'occasion de prolonger ces échanges. Cette émission se termine. Donc, on est sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3 dans l'émission Débattre la campagne. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, 18h, pour une nouvelle émission Débattre la campagne. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.